Salut à tous, c'est Quentin, bienvenue dans cet épisode du podcast dans lequel je vais parler des films de 2020. J'avais dit que je ne ferais pas trop de trucs coincés dans le temps, dans le sens où j'ai envie que le podcast puisse être écouté, je vais y arriver, un an après ou 10 ans après. Mais je me suis dit, les films de 2020, c'est pas si coincé dans le temps que ça, dans le sens où si je verrais un top des films de 2010, j'écouterais un truc comme ça, juste pour me donner un petit peu l'avis de l'époque sur les meilleurs films du moment. Sachant que j'ai l'impression que les films qui sont captés, qui sont acclamés par la critique au moment où ils sortent, c'est pas forcément les meilleurs films de l'année. Mais bon, j'ai vu quelques trucs cette année, malgré le fait qu'on n'a pas pu aller souvent au cinéma, du fait que ce soit fermé et tout ça. J'ai vu quelques trucs en VOD, des trucs, voilà. J'ai 9 films, c'est pas dans l'ordre, ça sera pas un top exhaustif, parce qu'on s'en fout de faire des classements, mais j'avais juste envie de conseiller 9 films et juste faire un épisode sur ça, parce que j'aime beaucoup les films et que j'en conseille à chaque fois. Mais voilà, un truc un peu pour se rappeler de cette année, des trucs que j'ai vus et des trucs qui étaient vraiment intéressants, qui valaient le coup, qui valent le coup d'être vus, est-ce qu'on peut dire ça, je ne sais pas. Ou qui valent le coup d'être revu, voilà, le truc que j'avais envie peut-être de revoir. Et je commence tout de suite, je vais essayer de faire genre, je sais pas, 5 minutes par film, peut-être 3 minutes, j'en sais rien, c'est pas une critique, et je suis pas une critique de cinéma, donc ça va être un peu simple, c'est juste mes goûts, mais des trucs que je trouve intéressants à regarder. Déjà pour commencer, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu, mais bon, il faut quand même en parler. C'est sorti en 2019 en Angleterre, mais je crois en 2020 en France. En tout cas, c'était aux Oscars 2019 et c'est 1917. Alors, il me semble que c'est sorti 2020 en France. Film de Sam Mendes avec George Mackey et Dean blablabla Chapman, je sais plus son nom. Mais la photographie par Roger Deakins, et j'aime beaucoup Roger Deakins. Il a fait notamment la photo de Blade Runner. Il a fait... qu'est-ce qu'il a fait, Roger Deakins? Il a fait... je vais cliquer sur sa page. Voilà, tout simplement. Comme ça, on saura. Un grand directeur de la photographie, quoi. Et il a gagné 2 Oscars d'affilée, de meilleure photographie. Pour Blade Runner en 1917, il a fait la photo de Skyfall, Sicario, Les Évadés. Des très gros trucs. Et No Country for Old Men, par exemple. Fargo, Prisoners, que j'avais conseillé dans un épisode précédent. J'aime beaucoup, beaucoup sa photo. Il a d'ailleurs un podcast sur Spotify ou peu importe le truc que vous écoutez, les podcasts. Il a un podcast très intéressant où il parle de photos, justement. Et un peu de rapport qu'il a avec les réalisateurs, parfois, sur le set et tout, parce que c'est pas lui qui décide. Il est toujours au service du réal, mais il arrive toujours à mettre sa patte super, qui fait super actuelle, en fait. Enfin bref, voilà, j'arrive pas trop à décrire la photo de... De toute façon, ça se voit quand vous voyez un de ces films, c'est très impressionnant visuellement, et ça joue avec plein de trucs, et à chaque fois, il y a des images qui te restent dans le crâne après le film, quoi. Et je trouve qu'il fait ça très très bien. Du coup, je suis plus fan de Roger Deakins que Sam Mendes, je dois avouer, mais j'ai beaucoup aimé ce film, surtout pour la performance, en fait, je pense. Je pense que c'est un film à voir au cinéma et pas trop chez soi. Mais il est plus au cinéma maintenant, donc en tout cas c'est un film à essayer de voir dans les meilleures conditions possibles, dans le sens où le son est pas mal important, et c'est de le voir sur le plus grand écran possible, voilà, je pense. C'est pas un film à voir sur téléphone, bien évidemment, mais voilà, non, juste pour la performance, je suis pas sur fan de tout, dans le sens où je pense qu'il y a des moments où on voit les cuts, parce que c'est un faux plan séquence sur tout le film, et il y a des moments où les cuts sont un peu visibles, et on passe d'un univers à un autre, et ça fait pas très naturel. Ou des cuts numériques qui sont un peu... qui font pas très très bien, quoi. Je pense notamment à un passage où ils sautent d'un pont, où c'est pas très joli, mais bon, que faire en même temps. Non, mais mis à part ça, moi j'ai beaucoup aimé le film. J'aime beaucoup l'acteur qui joue dedans. Je trouve que c'était très intéressant. Je trouve qu'il est très très cool. Il match très très bien avec l'époque, George Mackey. Mais j'avais vraiment beaucoup de réserves pour l'autre gars, Dean Charles Chapman, qui je trouve fait pas du tout. Il a pas du tout la gueule d'un gars de cette époque-là, en fait. Il a vraiment la gueule d'un millénial, quoi. Et du coup, c'est un peu étrange. Je crois qu'il joue dans Game of Thrones, mais j'ai pas vu Game of Thrones. Mais moi, j'avais un peu de mal avec sa tête. Je trouvais qu'il me faisait un peu sortir du film. Pas le fait qu'il joue mal, c'est juste son visage qui collait pas avec la situation, je trouvais. Mais mis à part ça, bon, je chapote un peu, chipote plutôt. J'ai beaucoup aimé le film, je vous conseille de le regarder. C'est, même si vous n'êtes pas trop fan des films de guerre, je trouve que c'est une autre approche dans un film de ce genre, quoi. Et moi qui ne suis pas trop film de guerre, j'avoue que j'étais quand même très impressionné par ce film. Voilà. Passons au film suivant qui n'a rien à voir, bien évidemment, parce que je pense que les films n'ont rien à voir entre eux. Tous les films que j'ai vus, il n'y aura pas de fil rouge sur cette émission, ce sera juste les films d'affilée. Et on passe à un film des frères Safdie, Uncut James, qui dispose sur Netflix. Si vous n'avez pas vu, très grand film des frères Safdie. Ils ont fait Good Times auparavant, et c'était incroyable. Et j'étais très très fan de ce film. J'ai pas vu leur tout premier film. J'ai un peu oublié le nom de leur premier film. Leur premier film, Mad Love in New York, en 2014. Et j'ai pas vu ça. Ah, quoique, ils en ont fait d'autres avant, en fait. Ils en ont fait d'autres, mais pas ensemble. Donc bon, bref, c'est un film des frères Safdie. Il y a un des frères Safdie qui joue dedans, Adam Sandler, qui joue un rôle super intéressant, un rôle dramatique où là on est plus habitué à le voir dans de la comédie ou dans de la comédie dramatique. Là c'est full drame et c'est frénétique, c'est intense. Ça prend au trip, quoi. Ça fait 2h15, ça va super vite, tu vois pas les 2h15 passer. Et c'est dans New York, c'est un gars qui... Bon voilà, je vais pas faire le synopsis, mais voilà, c'est un mec qui vend des diamants et tout un short truc, et il est accro aux bêtes, il est accro aux paris sportifs, aux paris dans tout genre. Et c'est super intéressant, enfin moi j'ai vraiment trop kiffé ce film, c'est un film sous drogue, quoi. C'est vraiment, t'as l'impression que t'es sous coque pendant tout le film, trop cool. J'adore ce que font les frères Safdie. J'avoue, j'ai préféré Good Times à ce film-là, mais il me tarde de voir qu'est-ce qu'ils vont faire dans le futur. C'est un must-have, je pense, de cette année, ce film. C'est abusé. Mais je pense que c'est un peu un film, c'est soit tu l'aimes, soit tu le détestes. C'est-à-dire que soit tu rentres dans le truc et tu rentres dans le rythme, dans la vibe du film, dans tout le côté transgressif et parce que ça parle de plein de trucs horribles et c'est suivre un personnage qui est horrible aussi. Donc c'est assez compliqué de s'identifier à un gars dans le personnage principal. Bah, y a tout un tas de choses qu'il fait, on le trouve détestable, quoi. Et c'est assez intéressant et j'aime bien ça. Ça change d'habitude. Et non, voilà, je vous conseille Uncut James, je vous conseille de regarder d'autres films des frères Safdie parce que je les aime trop, ils sont très cool. Et alors c'est pas Joshua Safdie qui joue, c'est Ben Safdie qui joue dans le film. Il est très très impressionnant. Ah non, Ben Safdie joue dans Good Times, pardon, il joue pas dans ce film là. Mais ouais, ils sont très très impressionnants et je pense que ça fera partie des prochains grands réalisateurs d'Hollywood. Il me tarde de voir ce qu'ils feront plus tard, je l'ai déjà dit. Et Kevin Garnett qui joue dans le film, ça parle de basket un peu. Et il était très bien, voilà. Je me suis dit, ouais, big up à Garnett, parce qu'il joue la comédie, et je savais pas en fait que c'est lui, parce que je suis pas à balle dans le basket, mais je connaissais son nom, mais je savais pas que c'était un vrai joueur de basket qui jouait dans le film, et non, mais très bien, quoi. Franchement, il joue très très bien, il est bien dans son rôle et tout, c'était très cool. Mis à part ça, je vais passer au prochain film, voilà, Uncut James dispo sur Netflix, n'hésitez pas à le regarder, c'était très cool. Prochain film, c'est Tenet. Bon, tout le monde l'a vu. Enfin, beaucoup de gens l'ont vu, en tout cas, parce que 2 millions d'entrées en France. Donc, je pense que beaucoup de gens l'ont vu. Le dernier film de Christopher Nolan. Un budget de 205 millions de dollars, quand même. Avec Robert Pattinson et John David Washington, le fils de Denzel Washington, il me semble. Si je dis pas de bêtises, qui joue le protagoniste. Ouais, voilà. Ah, mais c'est lui qui joue dans Black Lake Clansman. Et j'avais bien aimé son personnage. Il est très bien, ce gars. Après le film, je me suis dit, ah, peut-être que non, parce que je trouve que Robert Pattinson lui vole un peu la vedette des fois. J'aime vraiment beaucoup ce que fait Pattinson là, sur les derniers films, quoi, qui va être le prochain Batman d'ailleurs, au passage. Mais c'est vrai, quand on regarde ses films, ils mettent les Twilight en premier sur Google, alors que, enfin, je veux dire, il est incroyable dans The Lighthouse, il est incroyable dans Good Times. Juste ces deux films-là, ça va vous réconcilier avec lui, avec cet acteur, si vous avez vu que Twilight, que ses apparitions dans Twilight avant. C'est un très grand acteur et je l'aime beaucoup. Et ouais, bah, Tenet, moi j'ai kiffé. Après, je sais qu'il y a plein de gens qui étaient en mode bof, quoi, qui n'ont pas trop aimé le délire, dans le sens où ils n'ont pas forcément compris ou je sais pas, ils s'attendaient à quelque chose d'autre. Moi j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'était très intéressant. C'est super impressionnant comment il peut créer des scènes d'action aussi intenses dans des décors aussi pourris, quoi. Je pense surtout à la scène sur l'autoroute, sans spoiler. Une scène sur l'autoroute avec plusieurs camions, dont un camion de pompiers. J'ai trouvé ça super impressionnant, on arrive bien à lire les scènes de baston, même si c'est super compliqué. Dans le concept, quoi. Moi j'ai vraiment kiffé Tenet. Après, bon voilà, est-ce que c'est mon must film, est-ce que je le regarderai? Je l'ai regardé deux fois, j'étais le voir deux fois au cinéma, et le voir une deuxième fois c'était kiffant parce que bah, tu connais un peu le dénouement et tu vois les petits détails qu'il a mis dans le film, surtout dans toute la première partie du film qui est surtout explicative et donc dont tu comprends pas trop la première fois parce que bah, y a beaucoup d'informations et c'est dur de saisir où est-ce que va le film exactement, toute la phase d'exposition, quoi. Et revoir la phase d'exposition en connaissant le dénouement, c'était super intéressant et j'ai beaucoup aimé. Voilà, moi j'ai kiffé ce film, franchement. Il y a des scènes que je me souviens et qui m'ont marqué. J'ai vu ça sur grand écran en mode IMAX et tout, c'était la folie. Et non, je suis pas. Je sais que pas mal critique Nolan et tout, et je suis pas le plus grand fan de Christopher Nolan en général, mais c'est vrai que ouais, c'était un grand truc, c'était un gros film de cinéma, quoi. Et on voit le budget à l'écran. Voilà, ça c'est cool. Et il y a un putain d'avion qui s'écrase pour de vrai, quoi. Et ça c'est un délire quand même. Et non, moi j'aime bien qu'il garde ce truc un peu d'utiliser des, comment on dit, des effets réels, quoi. Qu'il fasse pas tout en VFX, quoi. Et ça, j'aime beaucoup. Et non, j'attends pas mal son prochain film. En tout cas, moi j'avais pas trop aimé Interstellar. Unpopular opinion, mais... Enfin, opinion pas très populaire. Je sais que beaucoup de gens adorent ce film. J'avais pas trop aimé Interstellar, il m'a un peu réconcilié avec ce film-là. Donc voilà, je pense, voyez-le plus... Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je pense qu'il faut un peu y aller en se disant que c'est juste un film d'action boosté. Voilà. Et juste le prendre comme ça. Et du coup, on est un petit peu surpris par le reste après. Mais il ne faut pas se dire que c'est plus qu'un gros film d'action super impressionnant avec des scènes qui vous marqueront, quoi. Voilà. Voilà pour Tenet. J'ai bien aimé Tenet. Je le reverrai peut-être. Est-ce que je l'achèterai en DVD? Je ne sais pas. J'en sais rien. Uncut James, d'ailleurs, s'il y a des DVD, je sais pas si Netflix font des DVD, s'ils sortent leurs trucs en DVD, j'aimerais bien acheter Uncut James, j'avoue. C'est le genre de truc que j'aimerais bien garder. Ensuite, j'ai vu Les filles du Dr. March, de Greta Gerwig, ou le titre original Little Women, pour ceux qui l'ont pas vu. Ça, c'est pareil, c'est les films qui étaient aux Oscars de 2019 qui ont gagné des trucs. Quoique, je sais pas s'ils ont gagné un truc. Si, Oscar de la meilleure actrice pour... Saoirse Ronan, mais elle a pas gagné, non? Elle était nominée, peut-être. Bon, bref, je ne sais pas. Non, je crois qu'elle était juste nominée, voilà. Non, mais très bien, Saoirse Ronan, je l'aime beaucoup. Comment ça s'appelle? Timothée Chalamet dans le film est très très bien. L'histoire a été faite mille fois, mais c'est un peu une autre version de l'histoire, vraiment centrée sur les femmes et pas du tout sur le père, du coup. Comme les autres versions de l'histoire, le père est complètement absent pour le coup et la mère prend un peu plus de place. J'aime bien toute cette histoire avec Timothée Chalamet et Saoirse Ronan. Je sais pas du tout dire son prénom, mais c'est pas grave. J'aime bien toute cette histoire entre les deux, tout le moment où elle se remet en question et tout, le personnage principal se remet en question sur ce qu'elle a envie, tout ce truc de solitude, de vouloir poursuivre ta carrière, tout ça. qui peut mener à avoir une, bah voilà, à moins se focus sur les gens et juste se focus sur toi-même et ce que tu veux faire dans la vie et tes projets et un peu délaisser tout le côté amour et ce genre de trucs. Et je trouve ça très bien. Non, moi j'ai beaucoup aimé ce film, voilà. Je l'ai vu au cinéma au début de l'année et j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a des trucs que j'ai pas, il y a des trucs que je trouvais un peu bon, moins, un peu je trouvais qu'il faisait un peu cucu, un peu comment on dit, cheesy quoi, je sais pas comment, ouais, un peu cucu quoi. Mais c'est que quelques petits détails du film. J'ai pas beaucoup de souvenirs de ça parce que c'était il y a un an et je l'ai pas revu depuis. Mais non, c'était un très bon film. Je trouvais que c'était un peu classique parfois. Quelques trucs que je trouvais un peu, un peu attendu, mais en même temps, c'est une adaptation, tout ça, d'un film qui a été fait plusieurs fois, d'un livre qui est assez classique. Du coup, je pense qu'il y a des trucs qui ressortent comme ça de l'œuvre originale que tu peux pas trop changer, quoi. Donc, non, moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup le quatuor d'actrices qu'il y a dans le film. Et ouais, je conseille. J'ai pas vu d'autres films de Greta Gerwig. Je sais qu'elle est très connue en ce moment. Et Lady Bird, apparemment, c'est très bien, mais je ne l'ai pas vu. J'ai beaucoup aimé. Non, mais c'était très bien. C'était un très bon film. Et elle était avec Noah Baumbach avant. Et Noah Baumbach, il a fait Marriage Story, d'ailleurs. Ils étaient ensemble. Et j'aime beaucoup ce que fait Noah Baumbach aussi. Et j'aime beaucoup ce que fait ce qu'a fait Greta Gerwig. J'attends un peu qu'elle fasse un. Je sais pas, j'ai pas vu Lady Bird encore, mais j'ai l'impression que son prochain grand film est encore à faire, un peu, j'ai l'impression. Enfin, son vrai grand film est encore à faire, c'est un peu ça que je me dis. Voilà, je vous conseille Little Women, c'est un très bon film. Je passe à la suite, je vais juste boire un petit peu quand même, parce que je suis déshydraté. Donc, la suite, c'était Été 85, un film de François Ozon que j'ai beaucoup aimé. Ah oui, en fait, peut-être je dis un petit peu trop vite dans des films, du coup. J'ai commencé 1917, Uncut James, Tenet, Little Woman, ou Les filles du docteur March. Et Été 85, un film sorti cet été, et qui était, du coup, le nom, un film de François Ozon que j'ai jamais vu de truc de François Ozon, en fait, avant. J'avais pas trop envie de regarder Grâce à Dieu parce que juste le thème et l'affiche ça me déprimait et ça me mettait mal. J'étais là en mode j'ai pas envie de m'enfermer dans une salle devant ce film. J'ai l'impression que c'était un peu une prise d'otage le truc. Du coup j'avais pas été le voir mais apparemment c'était très très bien, très impressionnant en tout cas. Et voilà, c'est un film un peu léger, T85, pour ceux qui ont beaucoup aimé ce film. Call Me by Your Name avec Timothée Chalamet. C'est un peu ça m'a fait penser à ça. C'est pas vraiment ça, mais c'est un peu la version française de Call Me by Your Name, j'ai l'impression. C'est super intéressant, c'est très adolescent. C'est les années 80. Il y a une grosse vibe années 80, quoi. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Je trouve qu'il est très coloré, très intense, très un peu parfois dans les non-dits, dans les et je trouve c'est il y a un truc dans le film qui est très beau, je trouve, et très marquant. C'est tout ce qui est dans une relation qu'on peut projeter sur l'autre, genre toutes nos envies et nos fantasmes de relation que parfois on projette sur quelqu'un et ils sont pas forcément ce qu'est la personne, quoi. Et c'est très intéressant ce truc là de tu penses être amoureux de quelqu'un, mais en fait, c'est plus l'image que tu projettes envers la personne qui fait que t'as l'impression d'être amoureux de cette personne-là, mais en fait, c'est tout ce que tu projettes sur cette personne qui fait que tu l'aimes, mais t'aimes pas, c'est pas ce qu'est la personne, quoi. Et c'est assez compliqué à expliquer ce truc, je trouve, il explique très bien dans le film tout ce espèce de paradoxe d'amour d'été, de moments où tu crois qu'il va se passer un truc, en fait il se passe rien, de gens qui se rencontrent, qui passent des moments super intenses, qui réfléchissent chacun dans leur coin à la relation. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce film, c'était très très bien. Je l'ai vu au cinéma avec mon pote Robin, et voilà, on a tous les deux beaucoup aimé, c'était très très cool. Il a eu quoi, un label au Festival de Cannes. Bref, je sais pas si le film est dispo maintenant sur des plateformes ou quoi. Ou s'il est juste dispo en DVD. Mais ça, c'est le genre de film que ouais, je pense que je garderai, que j'achèterai un DVD et je le garderai dans ma bibliothèque, quoi. C'est très feel good, c'est très cool, même si ça parle d'un truc, ça parle aussi de la mort d'une certaine façon, et c'est adapté d'un livre. J'ai oublié le nom du livre. La danse, blablabla. Il s'agit de l'adaptation du roman La danse du coucou d'Adrian Chambers. Je sais pas si c'est La danse du coucou ou c'est pas Just Dance sur ma tombe plutôt en anglais, Dancing on my grave. Dance on my grave, je crois. Ouais, c'est ça le nom anglais. Bref, trop bien, un film en pellicule en plus, et j'aime trop, je crois que c'est filmé en Super 8, en Super 16, et il y a tout ce grain de film qui est super cool et palpable et que j'ai beaucoup aimé. Non, voilà, je conseille ce film de François Ozon, Été 85, et Benjamin Voisin est très très bien dans le film, et Félix Lefebvre, je crois que c'est son premier rôle dans un film, et il joue très bien, il est très cool, et voilà, j'ai beaucoup aimé ce film. Passons à la suite, rien à voir. Rien à voir, un film américain sorti en 2020, un film de Judd Apatow. Vous commencez peut-être à le savoir depuis le premier épisode. Je crois que ça fait 3 fois que je parle de Judd Apatow ou d'une production de Judd Apatow. Je suis un peu en blocage en ce moment, mais c'est des phases. C'est-à-dire, j'ai des phases où genre, je fais un réalisateur, un truc. Et en ce moment, Judd Apatow me fait beaucoup rire et je suis beaucoup sur le stand-up américain. Du coup, ça se relie pas mal. Il y a beaucoup de personnes du stand-up qui sont reliées à Judd Apatow pour des projets de séries ou de films. Et c'est un film du coup, de Judd Apatow qui s'appelle The King of Staten Island avec Pete Davidson, si vous connaissez un petit peu SNL et toutes les... Et tout un peu l'humour de New York américain, de la télé et tout ça. Pete Davidson, il est sur SNL. Et il y a Bill Burr dans le film. Et bon, voilà, je suis très grand fan de Bill Burr, qui est un comédien de stand-up que vous pouvez regarder ses specials sur Netflix. Et c'est très, très drôle. En tout cas, il me fait beaucoup rire. Il y a 3 des specials de Bill Burr sur Netflix. Il y a 1 special de Pete Davidson sur Netflix aussi. Si vous aimez le stand-up ou si vous n'aimez pas le stand-up, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée. Et du coup, c'est un film un peu sur la vie, sur la vraie vie de Pete Davidson, qui a perdu son père. Le 11 novembre 2001 le 11 septembre pardon, oh là là, qu'est-ce que je dis, le 11 septembre de 2001 c'est intéressant parce qu'il y a toute cette c'est drôle et c'est touchant à la fois, ça dure longtemps par contre, faut être un peu habitué, les films de Judd Apatow ça dure un peu longtemps, ça dure 2h18 pour une comédie dramatique, c'est un peu long mais moi j'ai pas trouvé que ça durait longtemps, je trouvais que c'était parfait, on a le temps de s'attacher au personnage. En gros, l'histoire, c'est juste un gars qui habite à Staten Island, du coup, cette partie de New York, au sud de New York, il me semble. C'est un peu un endroit pas ouf, apparemment. Et bref, vu que sa mère ne voit plus personne depuis très longtemps, depuis que son père est mort, elle rencontre quelqu'un. Et cette personne, c'est Bill Burr. Le personnage dit Pete Davidson qui habite toujours chez sa mère, dans le sous-sol de chez sa mère, et c'est vraiment son histoire à lui. Au moment où il voit débarquer son beau-père, quoi, un gars qui va devenir son beau-père, bah, il accepte pas du tout au début, et il est juste là en mode non, mais c'est mort et tout. Surtout que du coup, son beau-père est. Enfin, du coup, le gars qui va devenir son beau-père est aussi. Pompier, et son père était pompier, il est mort du coup le 11 septembre alors qu'il était en train de faire son travail, quoi. C'est sa vraie histoire, et c'est tout mêlé à c'est assez compliqué d'expliquer ce film, mais c'est mêlé à pas mal de trucs moi je me retrouvais pas mal dans le film, dans le côté un peu tu sais, t'es perdu entre t'as fini l'école, t'es plus à l'école, mais t'es toujours pas un adulte, quoi. Et t'es genre dans cette phase de ta vie où genre t'arrives vers 25 piges et t'as fait des petits boulots et tu fais rien et tu traînes avec tes potes et tu sais pas trop où ta vie va et tout le monde te dit un peu de prendre ta vie en main, quoi. Et en même temps t'es là en mode ouais, mais je sais pas ce que j'ai envie de faire, j'ai pas encore trouvé mon truc et tout. Et ouais, je trouvais que c'était très beau et super intéressant, quoi. Après, je trouve que c'est beau et c'est drôle et ça met plein de choses en parallèle et ça fait très vrai. toute la relation avec sa mère et la relation avec son nouveau beau-père et sa meuf et ses potes, tout ça, ça fait très vrai. J'ai l'impression de voir moi et certains de mes potes, et j'ai l'impression de voir certains de mes potes dans le personnage de Pete. Je pense que c'est très personnel, ce film. Peut-être que si vous êtes un peu je sais pas, j'en sais rien. Peut-être c'est, je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas forcément aimé, qui trouvaient ça pas très intéressant, mais moi, c'est un de mes films préférés de cette année. J'ai du mal à capter, mais c'est juste un truc d'essence, de genre, je ressens un peu ce qu'il ressent, le personnage, et je me reconnais, en fait. C'est surtout un truc de genre, je me reconnais dans le perso, dans pas mal de trucs, même si j'ai pas perdu mon père comme lui, j'ai pas. Mais tout ce truc de rapport à la paternité, à un rapport avec sa mère, sa sœur, il me semble qu'il y a sa sœur dans le film, avec sa sœur. À la peur aussi qu'il y ait genre un nouveau père qui rentre dans ta vie, je pense que ça peut marcher avec des personnes qui ont des parents divorcés ou des trucs comme ça. Enfin bref, bon voilà, The King of Staten Island, je vous conseille, c'est super perso, mais au-delà de ça, beaucoup, les films de Judd Apatow, le special de Pete Davidson sur Netflix, le special de Bill Burr, enfin les specials de Bill Burr, toujours très intéressant et très cool. Ça c'est 100% en Blu-ray, moi ça part en Blu-ray dès que ça sort, ce truc, c'est direct, j'ai vraiment trop aimé. Voilà. Next, pourquoi il y a marqué Béatrice Dalle, je ne sais pas. Lux Aeterna, ah oui, Lux Aeterna, le dernier film de Gaspard Noé, qui est plus un long, c'est pas vraiment un long métrage, c'est un genre, c'est un 50 minutes qui devait être juste une publicité pour Yves Saint Laurent, qui finalement s'est transformé en 50 minutes, qui est sorti au cinéma, un peu particulier ce truc, mais qui un peu parle de l'enfer sur un plateau, quoi. Et de comment ça peut mal se passer, je pense, quand il y a, bah, y a un peu tout le monde qui donne son avis, c'est pas très très organisé, et tout le monde un peu cède à ses crises, et tout le monde un peu genre se transforme en espèce de démon sur le plateau, quoi. Et ouais, il y a un côté super dark et tout, et ça donne pas trop envie de faire du cinéma quand tu regardes ça, c'est tout les backstage d'un film un peu, enfin le tournage d'un film, et c'est très très intéressant. J'ai beaucoup aimé, un peu trop stroboscopique à un moment. Gaspard Noé, il aime beaucoup les stroboscopes. Il y a un moment, moi dans le cinéma, j'étais en mode, mec, genre, t'es épileptique, mon gars, tu fais une crise. Moi, j'avais mal aux yeux au bout d'un moment. J'étais, arrête un peu les strobos. On sait que t'aimes bien ça, mais arrête ça. Sinon, super intéressant, super cool. Ça fait que 50 minutes, mais c'est impactant. Il y a des trucs qu'on n'a pas forcément vu avant. J'aime bien le montage alterné. Il y a beaucoup de montage alterné et de style. Après, il y a tout un style de Gaspard Noé, de son chef opérateur, dont j'ai oublié le nom. Benoît Deby, je crois que c'est ça, cinématographie, ouais, voilà. Y a tout son style. Bon, si vous n'aimez pas les films de Noé en général, vous n'allez peut-être pas forcément apprécier. Mais ouais, moi j'ai beaucoup aimé les couleurs, le montage alterné qui est parfois un peu bizarre parce qu'on ne sait pas trop regarder et il y a deux trucs qui sont vraiment intéressants qui se passent des deux côtés, donc c'est un peu chiant des fois. Je trouvais que c'était intéressant, mais parfois un peu. Ben, on savait pas trop regarder, quoi, et j'étais juste là en mode, ah putain, j'ai l'impression qu'il faut que je regarde deux fois, et qu'une fois je regarde tout le temps à gauche, une fois je regarde tout le temps à droite, vu qu'il y a un montage alterné qui dure assez longtemps. Mais ouais, Lux Aeterna, toujours très cool de revoir un film de Gaspard Noé, qui je pense est un des réalisateurs en France qui est le plus intéressant, en fait, et qui est le plus unique. Il est vraiment unique, il a son style, et c'est toujours cool, et j'irai toujours voir ses films, je trouve ça toujours super cool. Super cool à voir, et y a un côté club, il y a un côté lumière, il y a un côté lumière colorée, club, dark, que voilà, moi j'aime beaucoup, mais c'est pas pour tout le monde, je pense. Voilà, mais Lux Aeterna, j'aime beaucoup comment ça s'appelle, Charlotte Gainsbourg, bien évidemment. Voilà, donc si vous aimez bien Charlotte Gainsbourg, Béatrice Dalle est très bien aussi dans le film. Voilà, je vous conseille Noé, mais si vous n'avez pas vu de film de Noé, moi je conseillerais. Je conseillerais. Pas Under the Void, moi ça m'a mis une claque de ouf. Et j'aurais vraiment kiffé le voir au cinéma. Under the Void, pardon, pas Under. C'était vraiment super impressionnant et ouais, c'est un peu des films que t'en as pas vu deux comme ça. Du coup, c'est cool à regarder, quoi. même si c'est particulier, que ça dure longtemps et que des fois c'est un peu chelou et qu'il y a tout un côté sexuel à chaque fois dans ces films qui peut mettre un peu mal à l'aise pour certaines personnes, mais enfin voilà, moi je conseille Enter the Void, mais bien évidemment pour cette année, parce que c'est sorti cette année, que c'est les tops des films de cette année, Lux Aeterna, quand ça sortira en DVD, ça sera acheté pour ma part, voilà, voilà. Ensuite, rien à voir, et c'est une comédie, et peut-être j'aurais dû regrouper les comédies ensemble, mais je ne suis pas organisé, donc never mind. Le nouveau film de Borat sur Prime Video, du coup Borat Subsequent Movie Film. Un film de Sacha Baron Cohen, du coup, réalisé par Jason Wolliner. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, Jason Wolliner, avant. Qu'est-ce qu'il a fait ? Weekend chez Bernie. Ok. Bon, bref. Ben non, mais Sacha Baron Cohen, toujours super intéressant. Après, moi, j'avais pas vu Borat 1. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu le 1, et du coup, le 2 était là en mode... Du coup, en fait, ça servait un peu à rien de faire un 2. Moi, j'ai trouvé que c'était dingue de faire un film pareil, avec genre... qui est genre super actuel en fait, qui surfe sur tout ce truc de pandémie mondiale et tout, et d'arriver à genre créer genre une histoire autour de ça, en même temps faire une critique des États-Unis aussi dans ta gueule en fait, genre sans filtre quoi, en mode ce qui est les États-Unis de Donald Trump quoi, vraiment genre sans filtre, sans vraiment réfléchir, très vulgaire et pas très intelligente quoi, vraiment, et ça montre bien ça, et tout ce truc autour de la pandémie mondiale et tout qui est très intéressant. Moi j'ai beaucoup ri au film, j'ai des fois beaucoup cringé où j'étais un peu mal à l'aise devant certains trucs, mais ça fait partie du truc, je pense, si t'es pas mal à l'aise c'est que t'as un souci quoi, tu vois, quand tu regardes ça, je pense que c'est un peu c'est ce qu'il a voulu mettre en avant. Moi je trouve que c'est genre un must quoi de cette année, c'est très impressionnant comment aux États-Unis ils arrivent à avoir ce recul sur un truc qui est aussi actuel en fait, c'est avoir un recul sur un truc qui est en train de se passer en ce moment, et je pense qu'on a un peu de mal à faire ça en France, d'avoir genre un film qui sort du tac au tac comme ça, qui est sur des événements actuels quoi, qui est genre dans l'année, des trucs qui se passent dans l'année, et il y a des gars qui écrivent un truc sur un truc qui est en train de se passer en ce moment et qui arrivent à avoir un recul dessus et genre à montrer les trucs horribles qui en découlent quoi. Je trouve que c'est très impressionnant et voilà, je conseille ce film, c'était très bien, c'est semi faux documentaire, prank, semi film scénarisé quoi. C'est assez intéressant. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. C'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde. Si vous avez pas aimé le 1, j'imagine que vous n'aimerez pas forcément le 2. Mais pour moi qui n'avais jamais vu Borat, j'avais vu la série avant qu'il avait fait Sacha Baron Cohen qui s'appelait This is America, je crois. Who is America, qui était super, c'était un peu le même, il y a un peu du même concept qui se rejoint comme ça, de faire des espèces de caméras cachées, de faire des impostures à des personnes connues, à des politiques ou des trucs comme ça, et c'est très impressionnant jusqu'où il arrive à les pousser, et que ça devienne tellement ridicule, et tu te dis putain mais c'est un délire quoi. Que ce genre de personne soit représentant d'un État ou ce genre de truc. Très impressionnant. Documentaire parodique politique, c'est très politisé, bien sûr. Je pense que si vous êtes de droite, vous n'avez peut-être pas forcément aimé ce film. Mais regardez-le, voilà. Non, voilà, j'aime beaucoup ce que fait Sacha Baron Cohen. Je le trouve très drôle, très pinçant, très actuel. À voir, et puis c'est sur Amazon Prime. Voilà, je conseille Borat Subsequent Movie Film, une nouvelle mission filmée. C'était très intéressant et ça vaut le coup d'être regardé. Et pour terminer, sur les chapeaux de roue, un peu avec le dernier film qui est sorti que j'ai vu cette année, et qui est un film de Pete Docter, Soul, sorti en 2020. C'est le dernier film de Pixar. Et il devait sortir au cinéma, et puis bien évidemment que les cinémas sont fermés. C'est sorti en direct sur Disney+. Voilà, donc est-ce que ça vaut le coup de prendre Disney+, pour regarder ce film? Oui, voilà, et résilier votre abonnement juste après. Mais Soul, incroyable. Enfin, c'était, pour ceux qui ne savent pas, Pete Docter, il a fait auparavant Vice Versa, ou Inside Out en anglais, Monstres et Compagnie, et... Ah bon, il a fait Là-haut aussi ? Ok, il a fait Là-haut, et il a fait Wall-E. Non, il n'a pas fait Wall-E, n'importe quoi. Non, il a fait Monstres et Compagnie, Là-haut, Soul et vice-versa. Monstres et Compagnie, c'est un de mes films préférés d'animation. C'est incroyable. J'avais pas mal aimé vice-versa, même si je sais pas si j'avais... Il y a des petits concepts que j'avais bien aimé, d'autres trucs que j'avais pas trop apprécié. Là-haut, je l'ai pas vu. Non, il faudrait quand même que je le regarde à bout d'un moment. Mais Soul, super intéressant. J'ai pas trop envie de spoiler le film parce que je trouve qu'il est très intéressant. Il y a des moments assez surprenants dans le film. Et c'est cool d'en savoir le moins possible. Du coup, je vais pas trop spoiler le film, juste dire que je pense que c'est un grand film de Pixar, et moi j'ai toujours été grand fan des films de Pixar, pas trop Disney, à part Disney. Il s'avère que les 10 dernières années de Disney, je trouve, sont très cool. Je pense surtout à je vais mettre film Disney, je pense surtout à genre Ralph, les mondes de Ralph, c'est très bien. Bon bref, Soul, je vous conseille, c'est très très bien. Pete Docter, incroyable. C'est un film qui donne envie de vivre. C'est un film qui a plein de thèmes super intéressants sur la passion, y a un truc avec la parenté, je trouve, qui est super cool. Les personnalités. Et ouais, sur les passions, qu'est-ce qu'on a envie de faire dans notre vie, comment on a envie de profiter de notre vie, qu'est-ce qu'on veut faire de notre existence sur cette planète. Et ça paraît très très deep comme ça, et je pense que c'est pas vraiment un film pour les enfants, c'est plus un film pour les ados et les adultes. Je vois pas trop le côté enfantin dans le film, là, pour le coup. Voilà, toujours super... super bien écrit, super intéressant, avec plein de thématiques qui te donnent envie de je sais pas, ça donne envie de faire plein de choses, quoi. Ce film, c'est genre un boost, ça donne un boost. Et voilà, j'ai trouvé que c'était très très bien. Même si ce sera pas mon film préféré de Pixar, je trouve qu'ils arrivent toujours à surprendre du bon côté. Et ouais, si vous avez des enfants, c'est le film à montrer à vos enfants, peut-être. Ils comprendront pas tout, mais en même temps, je me dis qu'ils reverront le film plus tard, et c'est un film qui peut accompagner sur plein de moments de vie, et il est super intéressant, ça va leur donner envie de faire du piano, sûrement, ou faire du jazz, n'importe quel instrument qui a rapport avec le jazz. Des cuivres, quoi. Mais ouais, trop bien, enfin, trop cool. Et je suis content de finir avec ce film, et je vous conseille de vous prendre un abonnement juste pour un mois. Voilà, je suis pas payé par Disney Plus, et ça fait un peu chier parce qu'il y a pas grand chose sur Disney Plus qui vaut vraiment le coup, si ce n'est ce film là et les Mandalorian, quoi. Mais ouais, ce film est ouf, ce film est vraiment très très bien. Voilà. Et ce qui en est tout de mon un peu top, qui n'est pas vraiment un top parce que c'était pas du tout dans l'ordre de l'année 2020, c'est pas vraiment un top. Après, j'ai pas tout vu, j'ai pas vu 10 000 trucs, j'ai mis 9 films, je pense que j'en ai peut-être vu une quinzaine, une vingtaine de films qui sont sortis cette année, je parle, j'ai vu plus de films que ça, mais c'était des anciens films. Mais dans les bonus, je vais mettre un petit bonus pour les trucs que j'ai pas vu, que j'ai envie de voir, qui ont l'air cool. Il y a Drunk, que j'ai raté au cinéma, qui avait l'air trop, trop bien, et que j'ai beaucoup envie de voir. Il y a Madre, un film qui avait l'air très très intéressant, j'ai vu beaucoup de critiques positives, du coup j'avais beaucoup envie. Il y a Waves, un film qui était à Sundance, il me semble, qui avait l'air très cool, sur une espèce de il se barre en voiture, un truc comme ça. J'aimais bien les couleurs et tout. Ah, mince, Waves 2019, sorti en 2019 aux States, bref, qui avait l'air super intéressant, et très beau. La photo a l'air très belle, du coup je me suis dit, ah, pourquoi pas. C'est un peu mitigé, les avis, mais why not, hein. Il y a des trucs où les avis sont mitigés et c'est devenu mes films préférés. Du coup, voilà, j'avais envie de voir Drunk, Madre, Waves, Felicita, ce film français qui avait l'air aussi pareil très intéressant. Je vais aller très vite, hein, mais Séjour dans les monts Fujun, un film chinois, il me semble. Et j'ai juste vu le trailer et j'étais là, j'aime bien la photo, j'ai envie de le voir. Voilà, c'est tout. Dark Waters, ce film avec Mark Ruffalo qui avait l'air un peu dark, ça s'appelle Dark Waters, mais qui me donnait un peu envie, mais en même temps, j'ai jamais un peu dans le mood pour regarder ce genre de truc. Mais pourquoi pas, je le regarderai un jour. Et On the Rocks, je pense vraiment que je vais le voir. Le dernier film de Sofia Coppola, que je n'ai pas vu, mais qui est un peu dans ma liste des trucs à regarder. Mais bon, en général, ma liste des trucs à regarder, je ne la regarde pas avant, genre 3 ans, je mets 10 000 ans à les regarder. Donc voilà, On the Rocks, je sais que c'est sur Apple TV+. Du coup, vu que je l'ai, je vais le regarder, ça c'est sûr et certain, avec Bill Murray et... Oh, comment ça s'appelle, je l'adore. Elle joue dans The Office. Rachida Jones, voilà. J'avais beaucoup envie de voir ce film. Avis mitigé, pareil, un peu de la critique. Du coup, j'étais un peu en mode, ah non, j'aurais pas dû regarder les critiques. Mais peut-être que je vais beaucoup aimer, voilà, parce que j'aime beaucoup ce que fait Sofia Coppola en général. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup Lost in Translation, c'est surtout ça, parce que j'ai vu que ça. Du coup, je dis ça, mais en fait, j'ai vu qu'un film. J'aime beaucoup Lost in Translation, et vu qu'il y a Bill Murray encore, je me suis dit, ah putain, si c'est genre Lost in Translation, un peu dans cette vibe-là, mais à New York, il y a moyen que je kiffe le truc, du coup pourquoi pas, voilà. Donc voilà, pour les bonus, j'ai pas vu Drunk, Madre, Waves, Felicita, Séjour dans le monde Funchun, Dark Waters et On the Rock. Pour mes recos 2020, je vais juste les répéter une dernière fois, comme ça c'est terminé. 1917, Uncut James, Tenet, Little Woman ou Les filles du Dr March, Été 85, The King of Staten Island, Lux Aeterna, Borat 2, Subsequent Movie Film, et Soul de Pete Docter. Voilà pour mes recos de l'année, et ça sera tout pour ce podcast, et j'espère que l'année prochaine ça sera aussi cool au niveau des films, parce que malgré qu'on ait eu les cinémas fermés et tout en 2020, il s'avère qu'il y a eu des très bons films qui sont sortis cette année, beaucoup qui ont été reportés à l'année prochaine, mais ce n'est pas très grave, il y a quand même eu des trucs très cool, et ça a permis aussi de regarder pas que des films américains, même si quand même dans mon top, j'avoue, il y a pas mal de films américains quand je check un peu. Mais voilà, j'espère que l'année prochaine sera aussi cool en termes de films. En général, il n'y a pas beaucoup d'années où je suis vraiment très deg. ça fait un peu 10 ans que je suis un peu tous les films assez médiatisés qui sortent. Et je suis très rarement... Il n'y a pas une année où je me dis que des films de merde cette année. Non. Si tu dis ça, c'est que tu n'as pas vu assez de films, je pense. Et puis voilà, très bonne année 2021, pour ceux qui écoutent ce podcast beaucoup plus tard, très bonne journée, juste dans le futur, j'espère que ça se passe bien dans le futur et que c'est mieux que 2020, parce que 2020 c'était pas la folie pour beaucoup de personnes, voilà. Et mais il y a quand même eu des films très cool, donc voilà, je voulais mettre un petit côté positif pour terminer, et à très bientôt dans un nouvel épisode du podcast. Ciao.